été financé par la Ligue, le Fonds lesbien d'intérêt général, un organisme à but non lucratif qui apporte un soutien financier au projet lesbien. Merci à vous. Bienvenue dans le placard, le podcast qui vous ouvre les portes sur un monde plus queer.
Aujourd'hui, nous enregistrons un épisode un peu spécial. En effet, nous ne recevons pas d'invités, nous enregistrons en toute intimité avec Eva. Lundi dernier, c'était le 11 octobre, date à laquelle nous célébrions la journée internationale du coming out, raison pour laquelle nous avons décidé de faire un hors-série sur ce sujet. Avant de rentrer dans le placard, on va se présenter pour celles qui ne nous connaissent pas encore ou qui venaient juste de nous rejoindre. Donc moi, c'est mes filles, j'habite à Brighton, sur la côte sud anglaise, et je m'identifie comme queer, sous le parapluie LGBT. Et toi, Eva?
Alors moi, c'est Petite Eva, alias Petite Eva. J'habite sur Liverpool, dans les environs de Liverpool, et je m'identifie comme lesbienne enfarouchée. De souche.
Nice. Et donc, pour celles et ceux, du coup, celles qui venaient de nous rejoindre, sachez qu'on a aussi déjà 4 épisodes de disponibles sur Spotify.
Et bientôt sur YouTube également, attention. Donc, sur ma chaîne YouTube Petite Eva, on a décidé avec mes filles, on s'est mises d'accord pour poster les 4 premiers épisodes. Et puis aussi, la suite, vous aurez plus de vidéos disponibles comme ça, ce sera plus cool.
Grave, c'est bien d'avoir un petit visuel aussi parce que c'est cool Spotify d'écouter et tout, mais de temps en temps, si t'as le temps, c'est cool de voir un peu comment ça se passe.
Ouais, les coulisses, ouais. Et tout.
Les coulisses,
les,
ouais.
Les jeux de main aussi, tu sais. Les... Bon, parlons maintenant coming out. Hein.
Allez,
pour cet épisode, on a décidé de revenir un peu sur nos propres expériences par le biais de questions et on va parler justement du coming out. Alors, on va essayer de répondre à en quoi le coming out est un outil d'empowerment. Donc, on va utiliser les questions pour un peu faire le tour de nos propres expériences et on va essayer de répondre un peu à cette question.
Ouais, et je te coupe vite fait parce que je suis en train de me dire comment on appelle l'empouvoirment en français, c'est ça? Ouais,
ouais.
Parce que je me disais, on dit empowerment, mais c'est en anglais.
Ah oui.
Mais voilà, un outil d'empouvoirment, c'est ça?
C'est ça, je crois, ouais, tu as raison. Déjà, mes filles, avant qu'on attaque dans le vif du sujet, première question. Combien de coming out penses-tu avoir fait dans ta vie?
Waouh, plein, et c'est pas encore fini. Si je dois donner un chiffre, c'est ça?
Ouais, essaie de donner un petit peu un chiffre.
Je dirais peut-être, pas non plus des masses en fait, peut-être je dirais 7 fois.
7 fois? Ok.
Ouais. Et
okay,
toi?
Ok. Ben écoute, moi je sais pas si ça vaut le coup que je réponde à la question parce que en fait j'ai regardé un petit peu des articles.
Mm-hmm.
Il se trouve que j'ai essayé de voir s'il y avait des stats en fait sur combien de coming out une personne queer peut potentiellement faire dans sa vie. Et malgré ce qu'on pourrait penser, c'est impossible que t'en aies fait que moins de 10, même moins de 50, c'est impossible. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que déjà, ok, il y a le coming out à la famille. Il y a peut-être tes parents sont divorcés, donc peut-être qu'il y a 2 coming out séparés. Peut-être que tu vas faire des coming out séparément à tes frères et sœurs, mais aussi, tu as tes amis. Tu as peut-être, je ne sais pas, ton voisin ou ta voisine. Tu vas avoir des potentiels collègues de travail. En fait, quand tu réfléchis à ça, dans ta vie, tu rencontres potentiellement, tu vas faire autant de coming out que tu rencontres de personnes, si on réfléchit.
C'est vrai.
Et... Et en regardant en ligne, pour essayer d'avoir des statistiques, il se trouve qu'il n'y a aucune stat sur cette information, qui est plutôt cool à savoir.
Crucial quand même, en plus. Non mais grave. C'est vraiment bizarre, ouais.
C'est un peu... Mais... C'est bizarre, en effet. Mais comme non. On disait tout à l'heure, c'est vrai que les gender studies... Donc, comment tu dirais ça en français?
Les études de genre.
Les études de genre sont plutôt récentes, surtout en France. Et, mais j'ai quand même trouvé un article anglais. Donc, il y a quelque chose sur le site blogadioma.com qui dit, en fait, ils ont essayé de faire une sorte de calcul. Donc, en gros, ils ont pris la moyenne, entre guillemets, des gens de notre vie. Donc, on vit environ 78 ans.
Mm-hmm.
Environ, jusqu'à 78 ans. Ensuite... on commence à avoir une sorte de mémoire après l'âge de 5 ans. Donc, si on assume qu'on rencontre 3 personnes chaque jour sur 365 jours par an. En gros, ils ont fait un total, ils trouvent le nombre de 80 000 potentielles personnes. Donc si on pense qu'on fait un coming out potentiellement à toutes les personnes qu'on rencontre, ou
au moins la moitié.
Au moins la moitié, ça veut dire que potentiellement, on ferait des coming out à 40 000 personnes dans notre vie.
C'est énorme. Et ça, c'est après, c'est les coming out conscients, parce que, pas conscient, je veux dire actif, parce qu'après, tu as des coming out aussi qui ne sont pas forcément faits de manière volontaire. Si, par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue, un de tes collègues qui te voit du coup avec ta partenaire, ben voilà, ça fait un coming out. Ouais. Pareil, tes voisins aussi, etc., etc.
Donc, totalement.
Il y a beaucoup de coming out qui ne sont pas forcément des coming out qui sont conscients et actifs, mais qui sont quand même des coming out. Ouais.
Totalement. Et puis même, je ne sais pas, tu vas au médecin et le médecin te demande si...
C'est vrai.
Est-ce que vous pensez que vous êtes enceinte et que tu n'es pas avec un garçon? Ben, rebelote, tu fais un coming out. Donc voilà, c'était un petit peu la news un peu fun, mais c'est vrai que coming out, en fait, on pense souvent que c'est que à nos proches, mais non, ça, le coming out, il nous accompagne tout au long de notre vie, qu'on le veuille ou non, en fait.
C'est vrai, c'est pas à un moment précis, c'est toute notre vie, en effet. Et du coup, bah, je vais continuer sur la prochaine question, en fait, Eva. Est-ce que tu as fait ton coming out déjà de 1 et si oui, c'était quand?
Alors oui, j'ai fait mon coming out, j'ai fait mes coming out.
Oui.
Je pense que dans ta question, du coup, tu fais plus référence aux proches, c'est ça?
Oui, la première fois vraiment où tu as abordé cette question de parler à quelqu'un de ton orientation sexuelle. Voilà.
D'accord, ok. Alors, juste pour... oui, j'ai déjà fait mon coming out. Donc, la première fois, c'était... Ouh, la première fois. Je pense que la première fois, ça devait être avec mes potes. Mm-hmm. Et en fait, c'était plus un coming out où je draguais une meuf, du coup. Et du coup, mes potes étaient plus en mode, ouais, on le savait. On était en soirée. Et puis, du coup, elles m'ont vu...
En action.
Elles m'ont vu en action. J'ai arrêté de dénier, de me mentir à moi-même et de leur mentir en disant, non, moi, je suis pas comme ça.
Voilà. J'adore. Donc là, c'était la révélation pour toi, voilà. Et aussi tes
c'est
potes.
Ça.
Et
c'est ça.
Est-ce que tu as fait aussi un coming out du coup auprès de ta famille et d'ailleurs du coup, quand est-ce qu'était le premier coming out avec tes proches et puis avec du coup la famille?
Eh ben écoute, j'avais 18 ans si je ne me trompe pas sur mon âge. Je crois que j'avais 18 ans, 17 ou 18, mais ouais. Et en fait, une fois que je suis sortie avec cette nana, en fait, une fois que toute cette émotion et que je me suis moi-même découverte, ça a été tellement fort que j'ai eu envie de faire mon coming out auprès de mes parents. Donc ça a duré peut-être pendant une semaine, en fait, pendant une semaine, voilà, je fricotais un petit peu et puis après, je me suis dit, allez... Je ne peux pas continuer à traîner dans la ville comme ça. Peut-être qu'un jour, il y a un voisin ou une pote de mon père ou de ma mère qui vont me voir avec cette meuf et je ne peux pas continuer comme ça, tu vois. Il faut que je leur dise moi-même. Et pour faire mon coming out, j'avais vraiment envie aussi d'être avec quelqu'un. Donc là, j'étais justement avec cette fille et pour moi, j'étais assez passionnée. Un bébé lesbienne passionnée. Donc voilà, je les ai... Comment ça s'est passé? On était un vide-grenier, justement dans la ville où j'habitais à l'époque. Et tout le monde, en fait, on y était tous allés en famille. Il n'y avait que mon père qui n'était pas là. Il y avait ma belle-sœur, mes deux sœurs, ma mère. Et voilà, pendant le vide-grenier, on a décidé d'aller au Subway. Et durant le Subway, en fait, voilà, on a pris nos petits sandwichs, on s'est assises. Moi, pendant que tout le monde était en train de déballer leur sandwich, j'ai pris mon téléphone, j'ai récupéré une photo de la fille en question. Et en fait, je l'ai montrée à ma mère et je lui ai dit « Tiens, maman, c'est ma copine. » Et ma mère m'a regardée entre deux yeux en mode « C'est ta copine copine ou copine ?» Je lui ai dit « Tu sais ma copine. » Et du coup elle m'a dit ah d'accord, et genre elle a regardé son sandwich. et du coup mes sœurs ont été en mode ah fais voir et tout, et voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Donc ouais, j'avais vraiment je voulais vraiment le faire un peu en mode casual. Je voulais le faire vraiment...
je voulais sans que ce soit un gros événement.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Je voulais surtout ouais, que ce soit normal. Donc,
ouais. Et de ce que tu as dit aussi, juste, désolée de te couper, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu as voulu faire ton coming out pour éviter que justement ça se sache avant même que tu aies l'opportunité en fait, de le dire toi-même. Tu avais l'impression que tu allais être outée.
Ouais.
Donc, est-ce que tu t'es sentie un peu obligée de faire ton coming out?
Ben, tu sais quoi, franchement, j'avais envie de le faire, mais c'est vrai que j'avais déjà peur. J'avais pas envie qu'il y ait des stéréotypes qui tournent autour et tout. Et c'est pour ça aussi que je voulais. Attendre que ce soit sérieux, parce que j'avais pas envie non plus qu'ils pensent que ce soit une façade. Tu vois, un petit test et tout. J'avais envie de présenter quelqu'un de concret. Et c'est vrai que en fait, vu que j'avais... Enfin voilà, à l'époque, j'avais très très envie de voir cette fille et de me retrouver avec elle tous les jours et tout. Et en fait, c'était assez pesant parce qu'on se cachait mutuellement, entre guillemets, on se cachait pour... quand on se voyait, et pour que elle, en fait, ses parents ne le sachent pas, et pour que moi, en fait, j'avais peur, ouais, c'est vrai que j'avais peur que quelqu'un d'autre annonce la nouvelle, et en fait, l'idée de ne pas avoir ça sous contrôle, sous mon contrôle, ça, ouais, je pouvais pas le supporter. Après, il y avait quand même aussi une envie très très forte de vouloir être out, et enfin pouvoir genre m'exhiber au monde, et ouais...
Ouais, de vivre un peu ta relation pleinement et d'être ouais. toi-même sans avoir à te cacher, quoi.
C'est ça, ouais.
Ça a du sens. Est-ce que je peux te poser une dernière question?
Ah, vas-y.
Je voulais juste te demander, vu qu'on a du coup dit qu'on ne fait pas qu'un seul coming out et qu'on en fait d'ailleurs pas mal au long de notre vie,
ouais.
Quel est le coming out qui t'a le plus marqué?
Waouh, ça c'est une très bonne question.
Hein. Si tu veux, tu peux réfléchir, on peut revenir après si tu veux.
Franchement, ouais, non, mais franchement, je vais peut-être y réfléchir un petit peu et revenir avant, mais là, à chaud, je te dirais qu'il n'y a aucun coming out qui m'a marqué, vraiment. Parce que dans le fond, je sais que mes parents étaient très ouverts et dans le fond, je savais qu'ils allaient bien en fait le prendre. J'avais pas forcément, et je me souviens pas d'avoir eu un coming out où les gens étaient choqués ou m'ont rejeté ou donc pour l'instant ouais j'ai pas trop d'idées. Par contre, ce que je peux rajouter, c'est que si vous allez sur ma chaîne YouTube j'ai raconté, en gros j'ai fait deux vidéos. Il y a une vidéo où je raconte en fait la première fille justement avec qui je suis sortie, et là je raconte en détail la soirée, ce qui s'est passé, machin. Et il y a une autre vidéo, une story time, où je raconte vraiment les détails du coming out. Parce qu'après, j'ai fait mon coming out à mon père. Et ce qui est marrant, peut-être que si... En fait, peut-être que justement, le coming out à mes parents est peut-être celui qui m'a le plus marqué, mais pas forcément dans le mauvais côté, dans le mauvais sens. C'est juste que, déjà, la première chose que ma mère m'a dit... Enfin, pas la première chose, mais en rentrant à la maison, ma mère m'a dit dans la voiture, ne le dis pas à ton père. Elle m'a dit, par contre, Eva... vraiment, genre, peut-être 5 minutes avant qu'on arrive, elle me dit, par contre, Eva, oui, je pense que tu devrais pas le dire à ton père maintenant. Et il faut savoir que moi, je suis vraiment un peu une tête... je suis taureau, je suis un peu une tête... Quand tu me dis de pas faire... Ouais, une tête de mule, j'aime pas qu'on me dise quoi faire, et je suis un peu en contre-contrôle de quoi que ce soit. Du coup, j'étais en mode, mais quoi? Mais pourquoi? Et tout. Ma mère me dit, non, mais... je pense pas que tu devrais lui dire, je sais pas trop comment il va réagir. Donc je pense que ma mère s'inquiétait. Et au final, quand j'ai dit à mon père, bon, ça s'est bien passé, il m'a fait la vieille remarque. Il m'a dit une vieille remarque en mode, ah, c'est du gâchis, un truc comme ça, mais il voulait rigoler. Et je lui ai dit, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et bref, et après, et ça s'est bien passé au final, mais je pense qu'il voulait juste casser un petit peu. Voilà, mon père, c'est un peu le clown de service, parfois, et il a voulu faire sa blague, mais là, j'étais en mode, non, mais papa, tu peux pas dire ça, putain.
C'est ça.
Et du coup, il a regardé son assiette en mode, ok, en mode grosse victime. Mais ouais, en fait, c'est plus...
Ok.
Ça m'a marqué plus, en fait, la réaction, tu vois, des proches qui sont pas sûrs eux-mêmes de... Tu vois, ma mère qui est pas sûre que mon père, alors qu'elle a vécu toute sa vie. Et juste dans l'optique de me protéger. Et après, on pourra aussi en reparler d'autres, mais c'est plus ce qui m'a marqué aussi, c'est comment les gens agissent avant ton coming out et après ton coming out auprès de toi.
Ça, ouais, en tête, et je pense qu'on pourra en revenir dessus justement. Là, c'est une autre question.
Bon, méfie. Tiens, je vais noter la question pour qu'on se souvienne. Mais méfie. Là, ouais. Quelle est ton histoire alors ? Ton premier coming out ?
Alors, mon premier coming out, c'était. En fait. Bah, quand on parle de coming out, on parle d'un moment où vraiment on prend le temps d'expliquer aux gens qui nous entourent ou des gens qu'on connaît, ben voilà, ça c'est qui je suis, ok. Et on va dire que quand j'étais en France, je me suis jamais vraiment sentie hétéro et je me suis jamais sentie lesbienne non plus. Je me suis jamais sentie bi, donc du coup je me suis jamais vraiment sentie dans une case ou une autre. Mais je sais que du coup entre mes relations du coup avec les mecs que j'avais à l'époque, je voyais du coup des meufs, de manière plutôt charnelle. Ah mais c'est vrai, honte à moi. Mais du coup...
Méfie à un passé, vrai. Attention.
C'est ça, faut pas en parler. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais du coup une rupture avec un de mes mecs de l'époque, j'allais direct dater des meufs, et voilà. Mais du coup, jamais dans ma tête, je m'étais dit... quelque chose de sérieux peut ressortir de ces relations un peu charnelles. Donc, dans ma tête, j'avais cette forte homophobie intériorisée où je me disais, mais jamais de la vie, je pourrais avoir une famille ou quoi que ce soit si je suis dans un couple qui est en dehors de la norme hétéronormative. Donc, même si entre mes mecs et tout, du coup, je voyais des meufs, j'en ai parlé à mes potes. Donc ça, c'est, on va dire, mon premier coming out de l'époque. C'était que, par exemple, je me rappelle, j'avais arrêté donc une relation et j'avais dit à mes potes, allez, on va au Marais, parce que du coup, on était sur Paname à l'époque. Et je disais, ouais, on va aller au Marais et tout, j'ai envie d'aller dans un bar gay et tout. Et genre, je disais, bah ouais, j'aime bien les meufs et tout, de temps en temps, c'est sympa pour le sexe, quoi, tu vois. Donc, jamais en mode sérieux. Donc, mes potes, elles étaient là en mode, ouais, c'est un délire, ha, 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 trop cool et tout, tant mieux pour elles, voilà, quoi. Et, en fait, c'est tout. En fait, ça, c'était mon premier semi-coming out où je leur ai dit, sans vraiment en faire un big deal aussi, ouais, j'aime bien les meufs, voilà. Ouais. Et tout le monde, enfin, mes potes, à l'époque, s'étaient dit aussi que ça serait jamais quelque chose de sérieux. Que c'était genre une passade, genre que c'était... oui, elle aime bien ça pour le sexe et c'est tout, en fait. Et en fait, après, quand je suis arrivée à Brighton, vu que c'est la capitale LGBT de l'Angleterre, LGBTQ+, je dirais même, et ben même si je suis arrivée en Angleterre dans une relation, du coup, hétéro, on va dire que... cis-hétéro, du coup. On va dire que quand ça s'est fini, j'ai commencé à dater une meuf. Et comme autour de moi, l'environnement dans lequel j'étais était tellement queer-friendly, qu'il y avait des couples homo dans la rue, des couples queer qui se donnaient la main, qui s'embrassaient, etc., qui étaient juste à côté de moi, dans les magasins, dans les restos, partout, c'était tellement normalisé que je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être normal. Et c'est en fait mon entourage qui m'a fait penser aussi, et la société qui m'a fait penser que c'était pas quelque chose de faisable, de normal, de construire une relation, etc. Donc, ça commençait un peu à cogiter. Et ça commençait à cogiter un peu quand j'avais fait des rencontres, même quand, du coup, j'étais avec mon ex à l'époque, mais des rencontres amicales. Et donc, après, quand ça s'est fini, je me suis dit, bon, je pense que là, essaye quelque chose, tu vois, sois ouverte et tout. Et donc, je me suis rasé les cheveux comme toutes les personnes queer. Je me suis rajouté un autre ou deux piercings, quelques tatouages en plus. Ouais. Non, mais je reste dans le cliché.
Ah, la crise de la queerness.
C'est ça, exactement. Mais réellement, du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et j'ai été dans des soirées, du coup, queer. J'ai eu un one night stand, un coup d'un soir avec une meuf... d'ailleurs super masculine, alors qu'à l'époque j'étais plutôt sur un peu les meufs un peu féminines et tout ça. Et après, donc ça c'était le premier truc où je me suis dit ok, nice. Et après j'ai rencontré une meuf qui était ma copine, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire mon coming out officiel à ma famille. Et donc j'avais rencontré cette fille, Georgia, elle travaillait à Starbucks à l'époque. Et en fait, j'y allais avec ma voisine, Charlotte. Elle est toujours dans l'histoire. Elle est aussi gay, il faut le dire. Et donc...
C'est trop drôle, putain.
Non, mais je te jure. Donc, on allait boire un café, du coup, à Starbucks. Et du coup, Georgia était là, derrière le bar. Et du coup, je l'ai ask out. Donc, je lui ai demandé son numéro. Et elle m'a dit, ouais, grave, on a été boire un café. Ça a commencé. Et en fait, ça a été une relation plutôt sérieuse. Donc, on est restés ensemble que 8 mois à l'époque. C'était ma... première relation queer. C'était la première. Et j'avais du coup 24 ans, 24 ou 25. Et en fait, comme j'ai vu que c'était sérieux et que je me suis dit, ouais, grave, c'est cool et tout, et que je me sentais bien dans la relation, je me suis décidée à faire mon coming out à mes sœurs. Et donc, je crois que j'avais dit, oui, ben voilà, je suis dans une relation. Donc, ah, t'as rencontré quelqu'un. Et après, j'ai dit, comme toi aussi, c'est une fille. Et donc, elle s'appelle, je crois que j'ai dit, elle s'appelle Georgia, quoi. Et après, il y a une de mes sœurs, ma plus grande sœur, elle dit, ah, ok, d'accord, tranquille. Et ma deuxième sœur, elle a dit, elle a pris ça, elle dit, oh, ouais, je le savais de toute façon. Je te l'ai commencé, tu le savais, à quelle heure, tu vois, genre, bah, bref. Donc, du coup, voilà, et c'est quand j'aurais fait mon coming out. Donc, je me rappelle qu'on a fait une vidéo, à l'époque, vidéo call, et j'étais avec Georgia, et du coup, j'en parlais, et tout, enfin, je dis, ah, voilà, c'est elle. Ah. Et, non, mais grave, donc super, super cute, ouais.
D'accord, donc, ouais. Ok. Ouais. C'était et ça. c'est marrant parce que moi c'est pareil, tout le monde m'a dit on le savait, alors que ma sœur a essayé de me faire dater un nombre incalculable de mecs. Mais pourquoi tu penses qu'elles t'ont dit ça? Est-ce que tu penses que c'était à cause de tes anciennes relations ou
Ben, enfin, je sais pas parce que je sais pas parce qu'en fait quand j'avais ces relations en France, charnelle entre mes relations avec mes mecs, j'en ai jamais parlé à mes sœurs, en fait. J'en avais parlé que, il y a que mes potes qui savaient, mais j'en avais jamais parlé à mes sœurs, vu que je pensais pas que ça serait un truc sérieux. Donc, quand ma sœur m'a dit, oh oui, de toute façon, je le savais, je lui ai dit, ah bon, comment et tout, elle me dit, je sais pas, je le savais, genre les bails. J'ai toujours été un peu la sœur un peu bizarre dans son style, dans son, tu vois, j'ai les centres d'intérêt, etc. Donc, peut-être que c'est pour ça, mais ouais. Je sais pas. Et toi, tu sais?
Ça doit être à cause de tes lunettes, alors.
Les lunettes en forme de cœur, celles qui ne me voient pas. Oui.
Je déconne. Ouais, on va rentrer dans les clichés, mais j'étais assez, quelqu'un qui jouait beaucoup avec les garçons au foot tout le temps, qui était beaucoup attiré par les trucs de garçons. Et j'ai un peu fait le yo-yo pendant longtemps avec mon style entre être très garçon manqué et puis après être plus féminine au collège parce que voilà, et puis ensuite retourner, enfin bref. Donc je pense qu'il y a de ça, il y a certainement de ça. Ils ont associé un petit peu, tu vois, les
stéréotypes, hein.
Les stéréotypes, ouais. Et puis bon, ouais. Du coup, ils n'avaient pas forcément tort, mais.
C'est vrai, au final.
Donc, ouais. Okay. En fait, du coup, t'as répondu aux deux questions, du coup, avec ta famille aussi, c'était quand?
Ouais.
Est-ce ça. Que tu veux qu'on passe à la deuxième question?
Oui. Okay.
Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ton coming out? Pourquoi vouloir le faire?
Bah, un peu comme toi, en fait, je dirais. J'étais, pas dans le côté, j'ai peur que ça se sache avant, puisque du coup, j'étais à distance, elles étaient en France et moi, j'étais ici en Angleterre. Mais plutôt, et en plus, en France, je me cachais un peu, donc voilà. Mais c'est parce que j'étais bien dans la relation avec cette fille à l'époque. Et je voyais qu'il y avait la possibilité d'un futur, donc je me suis dit, j'ai envie d'être moi-même aussi, quoi. C'est une grande partie de ma personnalité, enfin pas de ma personnalité, de mon identité que je suis en train de cacher. Et du coup, j'avais quand même envie de faire mon coming out. Après, ceci étant dit, je n'ai pas fait mon coming out à mes parents parce que du coup, malheureusement, moi, j'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune. Et du coup, mon père est décédé il n'y a pas longtemps, comme tu le sais, Eva. Donc, et je lui avais pas fait mon coming out. Donc, parce que je savais que ça aurait été vraiment compliqué. parce que j'avais déjà entendu dire des trucs homophobes et tout, donc je me suis dit que... Et ma sœur m'avait dit aussi, le fais pas, le fais pas à papa. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a un peu fait me retenir par rapport à ça, même si ces derniers temps, j'avais quand même pensé à faire mon coming out. Mais non, au final, je ne l'ai pas fait.
Ok, ok. Ok, je suis speechless, désolée. c'est compliqué, en effet. Est-ce que tu regrettes dans un certain sens de pas pouvoir lui avoir fait ou
Non, non, parce qu'au final, des fois, tu vois, enfin, des fois. Je me dis que ce n'est pas forcément nécessaire. Quelle est la plus-value, tu vois, de faire son coming out? Des fois, il faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce que ça n'aurait pas... Parce que je sais que ça aurait, je pense... Enfin, ça aurait vraiment entaché la relation et dans le sens où probablement on se parlerait, on ne se serait plus du tout parlé, pour le coup, ouais, je pense. Surtout qu'en plus, il était de religion musulmane aussi, et que du coup il m'aurait sorti, enfin il l'avait déjà dit, parce que dans ma famille il y avait déjà quelqu'un qui avait fait son coming out à l'époque et il avait sorti des trucs qui étaient pas top.
Ouais. Okay.
Et non, du coup je regrette pas. Ma mère, je me suis dit que je pense que probablement qu'elle s'en doutait à l'époque, parce que quand j'avais eu, parce que je vous ai parlé des relations entre mes mecs, mais en fait avant ça la première personne que j'ai embrassée, c'était une meuf. Et en fait, quand j'étais en colonie de vacances, c'est ça, je pense, maintenant, je réalise. Je pense que ma sœur, elle savait, parce que quand j'avais 14 ans, je lui ai dit, quand j'étais en colonie de vacances, qu'il y avait une meuf qui m'avait embrassée.
Ah !
Elle m'était embrassée et tout. Ah. Elle m'a dit... Et je me rappelle, elle était là, ah bon ? Et j'étais là, bah ouais, et tout, on s'est embrassés, etc. Donc, je pense que c'est pour ça que ce n'était pas sorti non plus de nulle part, et qu'elle a dû se dire, ouais, ça a du sens. Et du coup, on s'était... avec cette fille-là, à l'époque, on s'était envoyé des lettres de correspondance à la fin de la colonie de vacances, et des lettres vraiment un peu enflammées en disant ben voilà, qu'on s'aimait, etc. Et je sais que j'avais lu une partie de la lettre à ma mère à l'époque.
Ah.
En lui cachant une autre partie qui était très voluptueuse, je me suis dit non. et je pense que je me rappelle de son visage, elle était là... Et je lui dis, elle écrit bien, quand même, elle écrit bien et tout. Elle m'a dit, oui, oui. Mm-hmm. Dans le sens, c'est un petit peu étrange quand même, ouais. Comme lettre. Ouais, allez. Mais voilà, quoi.
Ok, ok, je vois. Et bon, je vais pas te demander, du coup, tu nous as répondu si tu avais quelqu'un à ce moment-là. Mm-hmm. Mais... est-ce que quelqu'un a déjà essayé de t'outer justement avant que tu le fasses? Avant ça...
Non, je crois... Je sais que ma cousine m'avait outée, mais c'était un peu semi-volontaire à ma tante.
Ok.
c'est ça, mais après, sinon, non. Après, au travail, je sais que bon, j'étais... J'aurais été out au travail.
Mm.
Non, je crois pas, non. Honnêtement, okay. Je crois pas. Et toi ?
Ben, du coup, oui, parce que... avant que je fasse mon coming out, en fait, j'avais joint une équipe de foot, et c'est là où j'ai rencontré un peu plein de potes gays, dont je ne savais pas qu'elles étaient gays, mais voilà. Et durant des soirées, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup... c'est un peu elles qui m'ont poussée aussi à me découvrir, en fait, et qui m'ont un peu mise sur la route. Et mais c'est vrai qu'il y a des moments où en fait elle me disait mais non mais Eva t'es gay, j'étais en mode mais non mais je suis pas et tout. Et je me souviens en fait à quel point ça m'énervait, tu vois, genre que bah ouais qu'elle mette des mots avant que moi je les mette, tu vois. Et et ouais,
c'est ouf ça par contre quand même qu'elle te disait ouais mais t'es gay et tout et que tu disais non et tout, laissez-moi tranquille.
Ouais, c'est vrai. Je pense que j'avais un petit peu peur aussi, tu vois. Je pense qu'il y avait, comme toi en fait, quand t'as parlé du fait que tu sortais qu'avec des meufs féminines, mes toutes premières relations, j'ai voulu vraiment... Je me suis dit non, mais moi je serais jamais une meuf masculine, je sortirais qu'avec des féminines, genre je sortirais du stéréotype et tout. Donc j'étais quand même... je mettais beaucoup de talons, des jupes et tout, et je sortais qu'avec des meufs avec des longs cheveux, ou alors, tu vois, genre vraiment, enfin, féminine, quoi. Mais, mais ouais, je pense
et
que...
Et qu'est-ce qui a changé, alors?
J'ai pris de l'âge. Non, je pense que c'est vrai qu'aller au UK, je pense qu'avant d'aller au UK, j'étais toujours, il y avait toujours un petit peu de lesbophobie en moi, un petit peu, notamment aussi j'ai
attends,
une...
je t'arrête, parce que là t'es en train de répondre à la question, à une des questions, donc est-ce que je peux te la poser comme ça tu rebondis dessus?
Vas-y.
Est-ce que vivre au UK a changé la manière dont tu approches ta queerness ou ton homosexualité?
Ouais, ben on est bien. Faut savoir, pour la petite, bon, pour la petite anecdote, faut savoir que mes filles avaient préparé cette question et en fait, je l'ai questionnée au moins pendant 10-20 minutes pour être sûre. Je lui ai dit, mais t'es sûre que c'est, ça rentre en compte avec le coming out et tout? Elle me dit, mais si, t'inquiète, tu verras plus tard.
Et tu vois, j'avais raison.
En effet, t'avais raison.
Merci.
Ton plaidoyer était très bon, notamment.
Ah, tu vois. Je dois, ouais. Et maintenant, tu peux y répondre, du coup.
Ben, du coup, voilà. En allant au UK, donc avant d'aller au UK, je pense que c'est la société française en elle-même, j'avais beaucoup de... Ben, j'avais beaucoup de lesbophobie ou d'homophobie en moi. Par exemple... les vieilles remarques, oui, bon, les mecs gays, ça va, s'ils sont... Enfin, non, moi, je peux pas avec les mecs gays, mais par contre, les filles, ça va. Ou alors, oui, ceux qui sont efféminés. Bref, tu vois, ça, c'était des mots. Même si je le disais pas, je pense que c'était ancré en moi et je pensais que c'était normal, en fait. Que... Ouais. Et puis, pour les lesbiennes, c'est pareil. Par exemple, sortir qu'avec des féminines ou vouloir être intéressée que par des féminines et... Puis, en fait, quand tu vois une masculine dans la rue, ben, être un peu trop, oh là, encore une lesbienne, ou tu vois, des petits trucs comme ça. Et juste avant de sortir de la France, j'ai une relation un peu toxique et qui m'a encore plus rendue lesbophobe. Parce que, bon, je vais passer les détails, mais la nana était assez, assez jalouse et elle-même était, elle était lesbophobe. Et du coup, j'ai un peu récupéré de ses tics et de ce qu'elle disait. Donc, par exemple, ouais, quand je croisais une personne queer, je regardais au sol. En fait, je voulais pas croiser le regard de cette personne ou je voulais pas avoir, je sais pas, d'eye contact, je sais pas pourquoi, mais il y avait une sorte de rejet en moi qui s'était créé.
Okay.
Et sortir de la France et notamment bouger en Angleterre. Sur Liverpool et de voir en fait que pas, peut-être pas dans tous les UK mais en tout cas sur Liverpool et sur Brighton du coup j'imagine la culture queer était célébrée et en fait je suis arrivée là au beau milieu de ces personnes en fait qui trouvaient ça cool d'être gay qui genre mais qui avaient une putain de discothèque gay super enfin genre sur Liverpool t'as carrément une rue entière qui est juste dédiée à la communauté LGBT avec je sais pas il y a un bar lesbien le Lisbonne il y a enfin bref être ancré là-dessus ça m'a fait ouvrir les yeux en fait et petit à petit mes relations aussi mais les filles avec qui je suis sortie ont fait que quand je faisais des remarques, en fait, sur les personnes gays que je croisais dans la rue, en mode, ah, encore une... Je sais pas, encore une meuf lesbienne, bah, en fait, mais... elles allaient tout le temps me reprendre, en fait, en mode, bah, et alors qu'est-ce qu'elle t'a fait? Genre, pourquoi tu dis ça? Et en fait, je me suis... Elles m'ont moi-même... Enfin, je me suis... J'ai moi-même réalisé...
Elles t'ont aidé à te questionner.
Ouais, c'est ça, en fait, ouais. C'est vraiment ça, c'est qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de... Toutes ces remarques et tout ça, c'était... Elles n'avaient pas d'ancrage, en fait. Elles n'avaient aucune consistance. Je ne savais pas pourquoi je disais ça. Il y avait... C'était de la haine gratuite. Et ouais, la culture UK, le fait de... D'avoir les gens, tu vois, qui ne réagissent pas quand tu leur dis que t'es avec ta copine, ou même au travail, de dire que t'as une copine et d'avoir tes patrons te dire « Ah ben, la prochaine fois, tu devrais l'inviter durant notre soirée et tout, ce serait sympa de l'avoir. » J'étais en mode « Ok !» Et petit à petit, en fait, tu t'en rends pas compte, mais tout ça, c'est un peu genre t'es... Ça se lave, ça se détache de toi. Et c'est que quand tu... Enfin, pour ma part, c'est que quand je rentrais en France et que tous ces stéréotypes, toutes ces...
Revenaient.
Que tu te confrontes aux personnes en France qui sont vraiment... Enfin, qui peuvent être homophobes, qui peuvent être... Et là, tu te dis, ah merde, mais... Et là, ça te saute aux yeux, en fait. Donc, ouais. C'est un peu une longue réponse, mais vraiment ça, ouais, être confronté... Une fois que tu as arrêté de vivre dans un milieu comme ça et que tu re-rentres et que là, quelqu'un te fait une remarque en mode « Ah ben, ouais, genre, je n'en sais rien. Ah bah toi, je te vois pas avec une masculine » ou tu vois des trucs à la con comme ça en mode « Bah, mais pourquoi ? Enfin, ça n'a rien à voir avec toi, quoi. Genre, si un jour, je change de copine et que je finis avec une masculine, on me bat les couilles, bat les ovaires. Ça va changer quoi à ta vie, quoi ?» Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais oui. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est que moi aussi, j'ai un peu une expérience similaire dans le sens où, en fait, quand tu es dans la situation, tu as du mal à te détacher et à réaliser un peu à quel point l'environnement dans lequel tu es est toxique. Mm. Parce que les gens que tu fréquentes sont des gens, en fait, qui, comme tu dis, ton ex, elle avait ce discours-là. Et les gens que tu fréquentais avaient ce discours-là. Donc, c'est dur de vraiment prendre du recul et en fait, ce que je me suis rendu compte moi aussi, c'est qu'en fait, plus tu apprends, et en fait, c'est ce qui s'est passé dans ton cas aussi en étant en Angleterre, et moi aussi, si tu me poses la question...
Je te pose la question, mes filles.
Allez, allons-y, donc. Je te dirai comme toi. Non, mais c'est vrai, c'est qu'en arrivant en Angleterre, il y a eu tout ce côté, en fait, où tu casses ton environnement qui est complètement moins toxique, où les gens sont beaucoup plus dans l'acceptance et la tolérance. Et en fait, c'est d'avoir du savoir... et d'apprendre. Les gens, en fait, que tu fréquentes, t'apprennent des choses nouvelles. Et c'est ce qui fait que, vraiment, tu vois le monde sous une autre lumière, en fait.
Ouais.
Et c'est grâce, en fait, à, bah, par exemple, les gender studies, tous les bouquins qu'il y a aussi. Parce qu'en France, je pense qu'il y a un peu ce gap-là, c'est qu'on a moins de recherches, tu vois.
Ouais, c'est vrai.
Par rapport à tout ce qui est genre et sexualité, etc. Et puis, ne parlons même pas des thématiques de race, etc. Mais du coup, comme on est dans un univers qui est beaucoup... dans un pays qui est beaucoup plus avancé au niveau de toutes ces questions-là, et ben forcément, tu vas fréquenter et des grandes villes comme par exemple Liverpool ou Brighton, tu vas être en contact avec des gens qui ont beaucoup plus de savoir, ce qui va t'apporter du savoir et tu vas commencer à te questionner et à vraiment à déconstruire tout ce que tu as appris par le passé, en fait. Et moi, c'est ce qui s'est arrivé, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'en France, j'étais comme toi, j'avais un peu tout cette queerphobie, tu vois, homophobie, tout ce que tu veux intérioriser. Et je disais des trucs pareils où je me suis dit, mais franchement, quand j'y pense maintenant, je me dis, waouh, mes filles, t'as fait du chemin.
Grave.
Non, mais, je te jure. Parce qu'avant, je me suis dit, mais... Et puis, en fait, c'est triste parce qu'en fait, tu te rejettes toi-même, tu vois. Parce que quand tu fais ces commentaires-là, c'est pas que contre les meufs qui sont masculines, contre... Non, c'est des commentaires que tu fais par rapport à toi aussi. Parce que tu rejettes, en fait, la queerness. Mm. Donc, c'est vraiment être un peu dans une démarche d'acceptance. Et je pense que quand je suis arrivée en Angleterre, c'est grâce à des rencontres comme toi, des gens qui te disent « Bah non, mais en fait, si tu réfléchis bien, écoute quand même ce que tu dis, c'est pas top. » Et j'avais rencontré cette personne, du coup, cette amie à l'époque, du coup, Charlène, qui habitait en Angleterre, et je me rappelle que je lui disais « Ouais, tu sais, je sais pas quelle est ma sexualité. » Et je lui disais « Voilà, je suis pas hétéro, je suis pas lesbienne, je suis pas bi, machin. » Et puis, je lui disais « Et puis, il y a des concepts sous l'umbrella LGBT qui n'embrassent pas mon identité, tu vois, qui prennent pas en compte, parce qu'on parlait aussi de féminisme, etc. Et je disais pareil, le féminisme, ça prend pas en compte, par exemple, l'aspect, la dimension... j'avais pas les mots à l'époque, je pouvais pas dire intersectionnel parce que je connaissais pas, mais je disais ça prenait pas en compte un peu là, qui je suis, donc une femme noire, tu vois.
Mm.
Et elle me disait, elle m'a dit tu devrais te faire elle me dit tu devrais te renseigner et lire des trucs sur le féminisme intersectionnel. Et elle m'a dit, je pense que tu es queer. Et j'ai dit, ah bon? C'est quoi queer?
Gros dédain, mais quoi?
Non, mais je te jure, j'étais peut-être pas forcément du dédain, mais j'étais vraiment en mode, oh, c'est un terme que je connais pas, je venais juste d'arriver en Angleterre. Elle m'a dit, ouais, moi, je pense que tu es queer. Et donc, j'ai fait mes recherches, etc. J'ai rencontré du monde. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est la première fois de ma vie où j'avais un terme qui me correspondait, en fait.
Ouais.
Quand j'ai vu ce qu'était queer, je l'ai ressenti en moi-même et je me suis dit, mais c'est moi. C'est carrément moi, en fait. J'ai pas vraiment de mots pour décrire le ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Et vraiment, l'Angleterre, ça m'a permis de vraiment come out, de faire mon coming out en tant que personne queer, parce qu'en France, j'avais pas les mots, j'avais pas le savoir, j'avais pas l'acceptance. Donc l'Angleterre m'a vraiment donné tout ça, ça m'a donné le knowledge. J'ai été à des événements que j'aurais jamais, pour lesquels j'aurais jamais été en France, tu vois. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment ouverts d'esprit, etc. Et enfin, c'était tout un autre monde qui m'a permis en fait de me challenger moi. J'étais en contact, par exemple, avec des personnes trans. En France, je faisais du volontariat, etc. Donc, j'avais été en contact justement avec des personnes trans, mais je pense que ma vision, j'étais toujours dans l'acceptance, mais j'étais vraiment dans un peu beaucoup d'ignorance, en fait. Donc, il me manquait énormément de savoir. Et j'étais là en mode, ok, tu vois. Et en arrivant en Angleterre, en bossant dans un bar queer, ouais, tout a changé, en fait. Et j'ai... C'est vrai, on dirait une pub, tu sais. non, c'est vrai, tout a changé. Je me suis vraiment reconnue moi-même et je me suis découvert et j'ai embrassé mon identité queer. Donc voilà. Et là, je suis en... Pareil, j'avais pas de questions par rapport à tout ce qui était question de genre, mais on va dire que récemment, c'est vrai, je sais que voilà, je suis une femme, etc., que j'embrasse mon identité de femme, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aussi, au fond de moi, tu vois, en moi, il y a quand même cette partie, ce petit pourcentage qui est quelque chose d'autre, qui n'est pas être non-binaire, mais qui est vraiment de la queerness. Donc, mais la queerness sur le genre et en même temps sur ma sexualité. Donc, du coup, c'est un peu mon coming out ce soir aussi, de manière...
Oh, merci, ma fille. C'est très cool.
Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, j'en ai parlé qu'à une pote, du coup.
Ouais.
Seulement. Et vite fait, vraiment brièvement, du coup, à mon partenaire. Mais ouais, j'en ai pas vraiment parlé, parce que du coup, je suis toujours en train de réfléchir un peu. Enfin, pas réfléchir, ouais. Mais en train de... Ouais, d'embrace, tu vois, mon identité et de savoir un peu où j'en suis. Mais voilà, c'est un peu mon coming out ce soir de genre et de ma queerness, full queerness, ouais. De genre et d'identité sexuelle. Voilà.
Ah, ben merci. Merci beaucoup à toi, c'est trop cool. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que les questions de genre sont un peu moins sollicitées et on passe beaucoup de temps à parler de sexualité. Mais ouais, je comprends. Franchement, même moi, tu vois, au niveau de l'identité de genre, c'est un truc très très nouveau pour moi. Et pendant longtemps, je comprenais pas trop, tu vois, tout ce qu'était la non-binarité ou la transidentité et tout ça. Mais c'est vrai que je sais pas si, encore une fois, c'est encore la société hein, mais, qui nous impose des trucs et tout, mais dans la non-binarité. En fait, je me retrouve en tant que lesbienne, mais pour moi, il y a, tu vois, quand je te disais, je ressens cette petite lesbienne en moi, genre, je l'imagine comme une sorte de petit caractère, tu vois, un personnage qui est vraiment là, en mode, je sais pas, la lesbienne peut faire tout, quoi. Elle peut déplacer des montagnes, genre, c'est un peu la femme, femme féministe forte et tout, mais en même temps, c'est vrai que la non-binarité, je sens une petite... parfois une petite amitié avec les termes. Après, je sais pas si le terme me conviendrait et tout. Et en fait, pour moi, les termes qui me mettent plus à l'aise, c'est l'androgynité, tu vois. Parce que ça me permet de sortir du coup de lesbienne, de cette sexualité. Et avec le mot androgyne, ça me permet aussi d'atteindre un peu cette masculinité qui fait partie de moi. Mais en même temps, j'ai pas envie de dire fuck off à la féminité, tu vois, homo-femme, ouais. Parce que je sais que, je sais pas, il y a encore cette... je suis encore en questionnement en mode... on a trop foutu la misère au mot à la féminité en général, à la femme en général, et en fait, est-ce que c'est moi qui rejette en fait cette la féminité,
ouais,
en voulant du coup me dire ben je suis androgyne ou je suis non binaire et tout, enfin tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que ouais. c'est, tu vois, est-ce que je suis encore en questionnement en mode est-ce que j'essaierai pas d'embraser le mot de la femme et d'essayer de justement de sortir de ce que la société a convenu pour ce mot et tout ça, tu vois.
Donc je vois.
C'est très intellectuel.
C'est compliqué, mais... Exactement. Intellectuel. Non, mais c'est vrai, mais tu sais qu'au final, tous ces questionnements, c'est quand tu as justement tout... Enfin, le plus tu sais, le plus c'est compliqué parce que tu as tout ce savoir qui se mélange. Et tu dis, bah oui, en effet, comme tu dis, tu as cette thématique un peu de ce qu'on veut te forcer, ce qu'on te met dans la tête par rapport à ce qu'une femme doit ressembler, ce qu'est la féminité, etc. Et du coup, de déconstruire un peu ces notions-là et de voir aussi comment tu te sens quand tu... Quand tu penses à féminité, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à masculinité? Parce que tout ça, c'est basé aussi sur ton ressenti, en fait. Mmh. En dehors de tout ce qu'aussi la société, elle veut te faire croire et qu'elle t'inculque, tu as une grande partie aussi qui est ton ressenti. Comment tu te sens par rapport à ta féminité? Comment tu te sens par rapport à ta masculinité? Et juste pour finir sur ça, je voulais juste dire aussi que moi aussi, je me suis questionnée un peu sur cette question de féminité, mais je pense que d'être une femme aussi, ça a un côté politique. Et je pense que c'est un peu ce que tu dis, tu vois, en me disant, bah voilà, mais en même temps, la féminité, est-ce que ça serait pas bien, ça serait pas justement bien aussi de garder cette, tu vois, ce label un peu de femme, etc., dans le sens où de combattre un peu les stéréotypes et les clichés de la femme et d'en faire quelque chose de politique. Mais je pense que l'identité de femme, ça a quelque chose de politique.
Ouais. Bien sûr.
Anyway,
totalement.
Parce que, parce que la société, elle est construite, elle est patriarcale. Donc, être une femme, c'est politique, qu'on veuille ou non, quoi.
Ouais, ben écoute, c'est totalement ça. Je pense que c'est vraiment, vu que le mot de la femme est politisé, je pense que sortir, j'ai l'impression qu'en sortant un peu de ce cadre-là, et ben du coup, je me dépolitise et je retrouve un peu de liberté, mais en même temps, je me dis, c'est un peu le patriarcat qui gagne, du coup, parce qu'on va laisser toutes les autres derrière, celles qui se sentent vraiment femmes, et au final, c'est un peu eux qui nous ont poussé, enfin, qui me poussent un peu à me regenrer, alors que, je sais pas, c'est après, tellement gros, tu vois.
C'est un gros topic et tout, mais le truc, c'est que je pense que je pense que l'erreur qu'on fait, enfin en tout cas dans mon questionnement, tu vois, par rapport à mon genre, ce que je me suis dit, c'est que c'est pas parce que je ressens qu'au fond de moi, il y a une partie, une petite partie qui n'est pas sur le spectre de la féminité, d'être une femme en tant qu'identité, que je rejette totalement,
ouais.
Tu vois, le fait d'être une femme. Pas du tout. Du coup, c'est quand même une partie de mon identité pour laquelle je suis très fière et je ne le rejette pas du tout. Et justement, je suis politique dans le fait d'être une femme queer. Voilà. Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Et du coup, ce n'est pas rejeter cette identité-là, mais c'est plutôt vivre avec cette identité-là et l'embrace. Et en même temps, embrace une autre facette de ton identité et d'avoir un peu les deux qui se mélangent et qui sont un peu fluides. Quoi.
Je vois.
Donc c'est un petit coming out que tu me fais aussi, Eva.
Je sais pas, ouais, on peut dire ça comme ça. Après, je suis encore en questionnement, donc
en questionnement.
Ouais. Je sais pas. J'ai pas encore pris ma décision. Je pense que je pense pour l'instant, à l'heure actuelle, je pense que je resterai en tant que femme. J'ai pas envie de encore une fois de fuck off, d'envoyer chier ce terme-là, donc. Ouais.
Prends le temps qu'il te faut, ton questionnement et tout. Ouais. On ne sait pas ce soir qu'il faut prendre une décision.
Ouais, c'est ça. C'est pas ce soir. Merci Jean-Pierre. Non, mais c'est super. Franchement, ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle thématique. Parce que c'est des sujets avec qui, avec Juliane, on en parle beaucoup aussi. Et on peut partir loin en fait.
Ah bah il n'y a pas de limite, en effet. Ok. Alors du coup, Eva, est-ce que tu es avec quelqu'un en ce moment? Bah oui, du coup tu viens de le dire.
Ben oui, du coup ça va faire 5 ans que je suis avec ma chérie. Voilà. Anglaise, liverpoolienne.
Nice. Et est-ce que du coup elle est out?
Ah oui, du coup oui, elle est out. Par contre... on parle aussi beaucoup du coming out et en fait on partage. Moi je vois le coming out comme un outil, comment dire, comme une force dans le sens où une fois que tu fais ton coming out, il n'y a plus de envers une nouvelle personne. Ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si la personne, c'est un connard ou une connasse et qu'elle est homophobe, elle va se casser et voilà, elle sera plus dans ton entourage. Si elle s'en fout, ou même si, tu vois, peu importe, le reste, en fait, c'est que la personne est ouverte et y a des... tu peux faire des choses avec cette personne. Ta relation peut vivre sur du long terme. Si tu fais pas ton coming out, ben, y a toujours un peu un risque où si cette personne reste dans ton entourage, du jour au lendemain, en fait, tu peux avoir de mauvaises surprises. Et je pense que c'est plus... Que ce soit politiquement parlant ou quoi que ce soit, je pense que maintenant, je mets tout de suite les cartes sur la table et je suis en mode... Je suis pas en mode, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Non, je suis plus en mode, par exemple, l'autre fois, je promenais la chienne et j'ai dit à quelqu'un, ah bah ouais, bah, ma copine, elle est venue... Enfin, j'essaie de mentionner ma copine comme une personne hétéro, le frère, en fait, au final.
Oui, exactement, ouais.
Mais voilà, mais je pense, ça, c'est un peu mon point de vue, je suis en mode, je mets carte sur table.
Tu normalises, en fait. Ouais.
Au travail, pareil. Ouais. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... Puis les gens, en plus, je pense qu'ils se restreignent un peu plus, genre... Les vieilles blagues sur les gays et tout, quand ils sachent que quand ils savent que t'es une personne gay, ils vont faire plus attention.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Alors que Jillian, elle est plus en mode, elle veut pas faire son coming out. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Après, elle l'a déjà fait dans le sens où voilà, ses parents le savent, mais en fait, elle a jamais annoncé la chose. Elle a juste, par exemple, là, on a sa nièce à la maison et sa nièce, elle a 12 ans, et jusqu'à l'année dernière, en fait, non, jusqu'à il y a quelques mois, en fait, on n'avait jamais vraiment dit à sa nièce que Jillian et moi, on était un couple, en fait. Elle venait à la maison, elle jouait, enfin, voilà, ces trucs de... que toutes les filles de 11 ans peuvent faire, mais il y a eu une fois où, par exemple, je suis allée la chercher en voiture à l'école, et elle venait juste de commencer le collège, et en fait, il y avait ses potes à l'extérieur et tout, et du coup, je vais la voir et tout, je dis « Hey, ça va Lola ?» et tout. Et là, une de ses potes arrive vers elle et lui fait « C'est qui ?» Et Lola, elle me regarde, elle fait « Bah, c'est Eva. » Et elle fait « Bah, c'est qui Eva ?» Et genre là, j'ai regardé bah, Lola, du coup, la petite nièce, et elle m'a regardée. On a échangé un regard de 5 secondes comme ça, en mode... J'ai pas répondu pour elle, tu vois, je me suis dit « Bon, c'est pas à moi de... » Tu sais pas, tu vois, d'annoncer. Et elle était un peu genre, merde, qu'est-ce que... Elle savait pas elle-même, tu vois, genre qui j'étais, genre cette meuf qui habite avec Jillian.
Bah oui, elle a dit quoi, du coup?
Désolée, attends.
Vas-y.
J'ai un vieux... Voilà. Et en fait, ouais, elle a juste répondu, ben c'est ma tante. Et du coup, bon, j'étais ok. Ok.
Ouais.
Et ensuite, on est rentré à la maison et j'en ai parlé à Jillian. Bref, et on a rigolé un petit peu parce que, tu vois, c'était un peu un moment en mode « merde », un peu révélateur, genre qu'est-ce qu'elle va dire. Et en fait, il y a juste un mois de ça, enfin, il y a un ou deux mois, avec le collège et tout, elle a commencé, en fait, à... Je crois qu'elle doit avoir des amis queer, en fait, et elle a commencé à parler à Jillian de questions LGBT en mode « ouais, c'est une série... » Enfin, bref. Par le biais de trucs qu'elle regarde et tout. Bref, elle a commencé à utiliser les mots LGBTQ+, un peu plus souvent. À mentionner la transidentité et tout ça, qu'elle avait des potes ou... Tu vois, et un jour, genre il y a peut-être un mois de ça, elle a dit... elle a commencé à dire le nom girlfriend, ta copine à Jillian. Genre en mode, je sais plus, genre ils étaient dans la cuisine ou un truc comme ça. Et enfin, je crois que Jillian cherchait un truc... Et Lola lui a répondu « Non, mais ta copine est française et tu sais pas où est-ce qu'elle l'a mis ?» ou genre un truc comme ça, tu vois. Et c'était la première fois qu'en fait, d'elle-même, en fait, mettait le mot sur notre relation.
Waouh.
Et c'était... Ouais, c'est un peu... Donc tout ça pour expliquer que Jillian, elle est plus en mode... Du coup, elle était contente, Jillian, de ça, parce que... Elle était satisfaite du fait qu'elle n'ait pas elle-même fait son coming out, mais que ça... En gros, elle part du principe qu'elle veut que sa nièce s'en rende compte, qu'elle fasse le travail elle-même, en fait. Tu vois, comme
naturellement.
Naturellement, ouais. Et je pense que par là, elle veut dire que, comme un couple hétéro, tu vois, un couple hétéro, tirer chez ton...
Bah, ils font pas leur coming out.
Ouais, hein, donc, voilà. Lola, elle irait chez un couple hétéro, tu vois, elle serait que les deux sont ensemble, mais ils auraient pas à faire de... Elle l'assumerait, en fait. Et je pense que Jillian, elle est plus dans ce côté-là où elle part du principe que si tu connais pas une personne, tu dois assumer qu'elle peut être n'importe quoi. Donc voilà. Genre, fais le travail toi-même. Moi, je ferai pas de...
je vais pas te faciliter le travail. Voilà, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça.
Après, voilà, elle me mentionne. Genre, elle me mentionne, je sais pas, quand elle sort avec ses potes et tout, elle me mentionne, tu vois. Elle me cache pas non plus, mais niveau famille ou avec les enfants ou, tu vois, des personnes comme ça, ben, elle va pas... je pense qu'elle réfléchit... Elle va pas réfléchir sur, OK, est-ce que je fais mon coming out ou pas. Genre, elle va laisser les gens faire leur... leur petit
leur bonhomme. Leur déduction d'eux-mêmes, quoi, ouais. D'accord. Voilà. Intéressant. C'est une approche assez intéressante, parce que du coup, c'est différent, ouais.
Ouais. What about your partner? Ton partenaire, du coup, qu'est-ce que... Oui. Comment ça se passe?
Bah, du coup, avec... Hope, du coup, c'est son nom, Hope. En fait... Et elle a fait son coming out à l'époque à sa mère, mais c'était un coming out du coup, maman, je suis gay, quoi. Mais donc après, ça s'est passé d'une manière OK. Et puis, le truc, c'est qu'il y a des personnes qui sont visibly, comme ils disent en anglais, visibly queer, donc visuellement queer, en fait. Donc, c'est des gens que tu peux identifier sur les stéréotypes, on va dire, de ce qu'est, du coup, une personne, par exemple, gay, comme tu disais, cheveux courts, etc. Ce sont des choses que... Enfin, du coup, les gens, quand ils te voient, ils assument automatiquement que, du coup, ben, t'es gay, quoi. Et donc, on va dire que Yael a dû faire son coming out, même, du coup, à ses potes à l'époque, à l'école, etc., parce que c'était visible. Donc, et Yael l'a dit, Yael ne s'en est jamais vraiment cachée. Et puis, par contre, en revanche, ça fait de ça, je crois que ça fait 2-3 ans seulement, où du coup, Hope a fait son coming out en tant que personne non-binaire. Et là, ça a été vraiment quelque chose de beaucoup plus émotionnellement drainant, dans le sens où, bah oui, tout ce qui est thématique, identité, genre lesbienne, gay, etc., enfin, lesbienne, gay, bi, aussi plus ou moins, ce sont des identités dont on parle plus souvent et qui ont été beaucoup plus normalisées que des identités, par exemple, que la transidentité ou identité de personnes non binaires. Donc, c'est vrai qu'automatiquement, quand tu fais un coming out par rapport à ton identité de genre, du coup, et pas par rapport à ton identité sexuelle, eh ben, c'est beaucoup plus dur parce que les gens ne comprennent pas forcément. Ils n'ont pas les mots et ils n'ont pas le savoir. Donc, tout de suite, quand tu dis, par exemple, à quelqu'un, oui, je suis gay, ils savent ce que ça veut dire être gay.
Ouais.
Donc, ils ne vont pas dire, ah bon, ben, ça veut dire quoi? Est-ce que tu... ça veut dire que tu sors avec des meufs maintenant, etc. Donc, non, ils vont... D'eux-mêmes, ils ont le savoir basique en se disant, ouais, ok, d'accord. Donc, voilà. Mais quand tu dis à quelqu'un, oui, je suis non-binaire, les gens vont dire, ah, bah, ça veut dire quoi? Déjà, ils vont dire, ça veut dire quoi, non-binaire? Ah, bah, ça veut dire que t'es pas un mec, mais t'es pas une... Tu vois, donc, il y a toutes ces questions-là où vraiment, déjà, c'est des questions qui peuvent ne pas forcément être très confortables. Et puis, ça rend déjà le coming out plus dur. Et du coup, ça te... En tant que personne, ça te réfrène, tu vois, à faire ton coming out parce que tu sais que ça va être dur. C'est possible que ce soit pas forcément dur pour tout le monde, parce que si t'es autour, je sais que Yael a fait son coming out à ses potes et que la majeure partie de ses potes sont des gens qui sont dans la communauté, notamment des potes qui sont aussi transgenres, etc., donc, ou des personnes qui sont queer mais politiquement queer, ces gens-là avaient le knowledge et donc du coup ça a été facile. Et donc ça fait du coup au moins quelques années, hein, 3 ans que du coup Yael a fait son coming out non-binaire, mais c'est vrai qu'auprès de sa famille c'était il y a un an, du coup c'était avant Noël, Noël dernier.
D'accord.
Et ouais c'était ça, je crois, ou en début d'année, ou juste après Noël, je crois. Donc ça s'est bien passé.
Ok, donc, super.
Voilà, super. Ouais, non, ça s'est bien passé, et pareil aussi du coup avec ses frères, et ça s'est bien passé aussi.
Ah, super.
Ouais, donc, mais après, il y a toujours un peu, ça s'est bien passé, mais dans le sens où les gens sont là, bah oui, je veux en fait que tu sois bien, en fait, donc ok, mais il y a toujours ce côté un peu de genre, je sais pas trop ce que c'est, parce que du coup, moi j'ai parlé un peu du coup avec sa mère, c'est vrai qu'il y a un peu encore des questionnements, et puis après, il y a plein d'autres choses aussi en fonction de si la personne veut faire une transition ou pas, etc. Donc, ouais. Je ne vais pas rentrer dans l'intimité de Hope. Donc, je m'arrête là, parce que c'est son intimité. Mais voilà, pour donner un peu une idée un peu globale de son coming out, ça a été du coup en deux temps, plusieurs fois, mais en deux temps, par rapport à deux identités différentes.
D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est intéressant, encore une fois, tout ce qui est identité de genre, on est encore loin, beaucoup de travail à faire là-dessus. Hein.
Énormément, énormément. Et je pense qu'en Angleterre, c'est déjà mieux, mais en France, il y a vraiment... Moi, je me rappelle de cette personne, justement, non-binaire, qui était passée à la télé et qui avait reçu une pléthora de haine sur les réseaux sociaux. Mmh. Et ils ont même créé des mimes à son image et tout, en disant « Oui, je suis non-binaire, ah ah ah, ouais, je peux m'identifier comme étant une porte ou je sais pas quoi. » Et je me dis « Mais waouh !» C'est un niveau de... Enfin, déjà de conneries, pardonne mon langage, mais aussi de, d'imbécilité et de, d'ignorance, en fait. C'est l'ignorance, le pire.
Ouais, bah c'est plus facile de rire que de rire de ça que d'essayer de comprendre, ouais.
Ouais, parce qu'au final, ça demande plus d'efforts de dire « Ah ben non, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et puis c'est aussi d'être dans une démarche, encore une fois, d'acceptance, tu vois. Ouais. C'est pas parce que tu comprends pas que tu dois avoir la haine ou que tu dois dire « Ah ben non, je rejette. » Non, tu vois, c'est pas nécessairement la démarche à aborder. Voilà, c'est tout pour moi.
Ben écoute, merci pour c'est tous ces aveux. Waouh, ce soir, on est gâtés, hein.
C'est vrai.
Bah, du coup, ouais, t'as répondu aussi, est-ce que tu es en couple? Oui, t'as répondu à cette question. Bon, on en a combien de temps, là? Ça va faire bien.
Mais on va devoir wrap-up, là, je pense. Ouais. Hein, donc,
Écoute, est-ce que, en très peu de mots, est-ce que tu veux donner un petit conseil?
En rapide, le coming out n'est pas obligatoire pour faire partie de la communauté LGBT. Ça, c'est quelque chose que je tiens à mentionner, à surligner et à crier pour, comme ils disent en anglais, for the people at the back.
Donc, j'adore ça, putain.
Moi aussi. Say it loud for the people at the back. Donc, donc oui, en effet, c'est pas mandatory, c'est pas obligatoire. L'identité de genre ou l'identité sexuelle, à la fin, c'est... Ça ne regarde que nous, en fait. Donc, si vous êtes dans un environnement, et aussi les personnes qui font leur coming out, comme nous, on a pu le faire, c'est parce qu'on a, on a un privilège, en fait. C'est un privilège de pouvoir faire son coming out. Donc, vraiment, faites vos coming out si vous sentez que, bah, de un, vous êtes prêt, si vous êtes dans un environnement qui n'est pas trop dangereux, parce que nous, on raconte des expériences de coming out qui sont plus ou moins positives, mais il y a plein de gens qui se retrouvent à la rue à la suite de ça.
C'est vrai.
Il y a plein de... Voilà. Je pense qu'il y a un taux de personnes qui se retrouvent sans domicile fixe dû, justement, au fait que les parents les ont rejetés, leur famille les ont rejetés après un coming out qui est assez élevé. Donc, ne le faites que si vous êtes sûr que vous ne serez pas en danger. Faites-le à votre temps, donc quand vous vous sentez prêt, et voilà, et ouais, non, c'est ça, c'est mes deux conseils principaux.
Bah écoute, franchement, je te rejoins, il y a ça, et il y a un plan B, enfin, moi, je dirais, voilà, si vous voulez vraiment faire, au bout d'un moment, un coming out, sachez qu'il n'y a pas de compte à rebours, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a personne qui va vous pousser, ou à part si vous êtes avec des connards et qui vous out. Mais prenez votre temps et préparez un plan B toujours. Par exemple, avec vos parents, si vous avez une amie, tu vois, essayez de checker si vous pouvez aller dormir chez cette amie. Ou... Et si vous n'avez rien du tout, ben, ne faites rien. Genre, c'est ça, encore une fois, ouais, ça ne sert à rien de le faire si c'est pour vous retrouver à la rue, quoi.
C'est une bonne idée, ce truc de plan B, honnêtement, ouais.
Et ouais, il y a plein d'associations, justement. Enfin, je sais, j'ai pas le nom de l'asso, mais qui peuvent aussi...
Je crois qu'il y a le refuge.
Ah, c'est
aussi,
ça.
Aussi, au cas où ouais, vous retrouvez à la rue. Je crois qu'il y a l'association Le Refuge. Ouais. Refuge. Oui, c'est ça, qui propose des hébergements temporaires.
C'est ça.
Si vous êtes dans cette tranche-là. Et donc, victime de LGBT-phobie. Donc,
exactement. Et voilà. Au pire, attendez d'avoir 18 ans, d'avoir un travail avant de le faire. Parce qu'une fois que vous serez chez vous, il n'y aura plus de problème, quoi. Ou du moins, enfin, voilà. Et essayez toujours d'avoir un plan B en fonction des situations, quoi. Voilà.
C'est ça. Et il n'y a pas de pression pour faire son coming out. Donc vraiment, comme l'a dit Eva, voilà, prenez votre temps. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Et ce n'est pas grave.
Ok. Ok. Bon, je pense qu'on va passer la dernière. Hein. Parce que vraiment, là, je pense qu'on va... On va essayer de wrap-up et de faire du coup...
Ouais.
De répondre à notre question du coup qui lidait un petit peu ce podcast. En quoi le coming out est un outil d'empowerment? Qu'est-ce que tu en penses, mes filles ?
Très très bonne question, même si je sais pas si on peut dire ça vu qu'on l'a on l'a écrite nous-mêmes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que oui, c'est un outil d'empowerment dans le sens où quand on fait son coming out, on en l'a mentionné un peu avant, on se sent un peu plus libéré en fait. Donc on est plus libéré et plus en lien et plus proud, donc fier de qui on est, dans le sens où on n'a plus besoin de se cacher, etc. Et c'est dans ce sens-là où c'est un outil d'empowerment, c'est qu'au lieu d'être en rejection, parce que quand on... C'est vrai que quand on est dans le placard, du coup, on, sans vouloir faire de mauvais genoux, on cache une partie de soi et du coup, on n'est pas soi-même. Et en fait, le fait de faire son coming out, c'est qu'on s'aime, en fait. On apprend à s'aimer et à embrasser toutes ces identités qui font de nous la personne qu'on est.
Puis je trouve aussi que ça rejoint un petit peu, on pourrait reprendre pour exemple l'expression « qui m'aime me suive » en fait, quand tu fais ton coming out, c'est un peu « si tu m'aimes pas, tu dégages ». Et c'est un peu, on va dire, je pense que voilà, faut vraiment prendre le truc comme un outil, c'est-à-dire qu'un outil, t'es pas obligé de t'en servir tout le temps, t'es pas obligé, tu peux le garder pour plus tard, et c'est à utiliser avec, avec parcimonie. Ouais.
C'est ça.
Donc, moi, par exemple, quand je fais mon coming out au travail, je sais que si les personnes... voilà, je peux me casser du taf. Si je sais que la personne en face de moi est homophobe, lesbophobe, je peux me casser. Et voilà, mais au moins, je saurai directement, je peux jauger directement les personnes. Si je suis en pleine nuit, que je rentre chez moi très tard et que, je sais pas, des mecs m'accostent, et je vais pas leur dire « je suis lesbienne », je vais essayer de... Voilà, il y a des moments où ça sert à rien de l'utiliser.
Donc, c'est ça.
C'est vraiment un outil de... Je pense un outil de protection, mais en même temps tu imposes un peu, enfin tu montres qui tu es, mais ouais, comme dit mes filles également, tu t'acceptes en fait. Dire que t'es lesbienne, en fait, c'est tellement, au bout d'un moment t'oublies en fait. Il y a des moments aussi t'oublies, ou dire que t'es queer, que t'es non binaire, une fois que c'est dit une fois, deux fois, trois fois, et ben en fait au bout d'un moment ça t'échappe, et voilà, c'est...
Ouais, c'est normal en fait. Et c'est d'ailleurs, ça. Justement, je pense que, notamment par rapport au fait de faire son coming out, un des autres conseils aussi, c'est vraiment, comme tu l'as dit toi aussi, de faire quelque chose d'assez normal, de pas faire un gros big deal, un gros événement, attendez, asseyez-vous, faut que je vous parle, etc. Mais vraiment de le sortir en mode, c'est normal. Ah bah, t'as quelqu'un en ce moment, oui, je suis avec, je sais pas, avec Georgia ou avec, tu vois, je sais pas, c'est avec telle personne qui est non-binaire, et vraiment de le faire passer un peu tranquillement. Alors qu'au lieu d'en faire un gros événement, parce que justement, quand on fait ça, ça set en fait la scène pour que la personne, elle soit en mode « Comment ça ? Mais c'est quelque chose de pas normal. » Donc vraiment, ouais, garder les choses assez simples. Et c'est un outil d'empowerment, juste pour finir, en disant que oui, ça sert quand on a des gens qui sont des célébrités et qui sont out, les voir à la télé en embrace, mais en vraiment en aimant la personne qu'ils sont et en mettant à l'avant justement que ce sont des personnes de la communauté LGBT, c'est empowering.
Ouais.
Parce que justement, ça, c'est un rôle modèle pour les personnes et ça normalise en fait aussi le fait que faire partie de la communauté, c'est pas quelque chose de répulsif ou autre.
Ouais. Bah, big up à Bilal Hassani, Christine and the Queen, Elliot Page, enfin bref, toutes ces personnalités-là d'ailleurs qui sont proud, qui sont fiers et qui inspirent toute la communauté queer on a daily basis, tous les jours, quoi. Bravo
à vous. Oui, merci à eux.
Bon, merci à tous. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. On espère que cet épisode hors série vous a plu. On se retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée. On ne donne pas de nom pour le moment, mais rejoignez-nous sur les réseaux. Et surtout, abonnez-vous pour en savoir plus. Allez, à bientôt.
À bientôt.